EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue à vous sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes dans une semaine de bénédiction. On a commencé une première semaine de bénédiction. Merci Seigneur, il vient de nous donner une deuxième semaine de bénédiction. Vous dites certainement pourquoi j'appelle ça comme ça. C'est parce que nous sommes en train d'étudier l'idée, le concept, la valeur, l'importance, la profondeur, les nuances au sujet du mot bénédiction dans la Bible. On ne veut pas seulement étudier le mot bénédiction, on veut vivre la bénédiction la manière la plus biblique qui puisse être. Donc aujourd'hui, on va aborder particulièrement la question de se dire comment faire pour être béni dans la Bible, dans la vie d'après la Bible. Bien, on fait beaucoup de choses à l'église, vous savez, qui veut balayer pour être béni, qui veut donner de l'argent pour être béni, on fait plein de choses pour être béni dans nos vies. Mais que dit la Bible? Qu'est-ce qu'on peut faire? Certes, je ne veux pas vous proposer une liste exhaustive, mais je vais vous proposer des bases sur lesquelles vous allez bâtir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut faire, selon la Bible, pour vivre et expérimenter la bénédiction divine dans nos vies. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Lorsqu'on veut se rapprocher de la bénédiction ou manifester la bénédiction, parce que quelquefois, on est déjà béni. C'est en fait un droit qui est déjà garanti, qui nous est déjà réservé. Mais quant à vivre, consommer, expérimenter la bénédiction que Dieu nous donne dans nos vies, il y a quelques éléments dans la Bible qui peuvent nous guider pour se dire, si j'appuie là, j'aurai là comme résultat. Dieu l'a fait comme ça. Vivre notre bénédiction, ce n'est en rien manipuler la personne de Dieu. On n'essaie pas de manipuler Dieu ici. On essaie plutôt d'entrer dans les droits, dans les avantages, dans les prérogatives, les privilèges que Dieu a prévus en notre faveur. Alors, que peut-on faire dès le début? La première des choses que je vous suggère à faire à la question « Comment faire pour vivre la bénédiction ?» Première des choses, c'est obéir à la parole de Dieu. Oh oui. Je crois que vous le saviez. Mais jusqu'à quel point sommes-nous conscients que l'obéissance à la parole de Dieu est source de bénédiction? On se dit, bon, il faut obéir à Dieu, il faut juste, tu seras béni. On a l'impression que obéis seulement à Dieu et vous serez en bon état. Vous aurez quand même une bonne relation, il ne sera pas fâché contre toi. On ne s'imagine pas que l'obéissance à la parole de Dieu donnerait les mêmes résultats, je me permets de le voir comme ça, donnerait le même résultat qu'une semence qu'on est allé déposer un jour pendant un appel de fonds à l'église. On s'est dit, voilà, ce jour-là, l'homme de Dieu avait appelé, il a dit que chacun amène sa semence, s'il dépose, vraiment, Dieu nous bénirait énormément. On s'est dit, ce jour-là, Dieu nous bénirait vraiment. Mais le fait d'obéir au quotidien des saintes écritures, on considère que là, on ne tient pas vraiment des bénédictions dans le vrai sens du mot, on ne tient seulement une bonne relation avec Dieu, Dieu n'est pas juste fâché contre nous. Si vous avez suivi ce que nous avons appris depuis déjà la semaine passée sur la bénédiction, vous comprendrez un des mots qu'on a employé, le mot achat, le fait que le bonheur dans la bonne relation avec Dieu est déjà en soi-même une véritable bénédiction. Obéir à la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on commence à avoir la bénédiction. Alors lisons un texte, Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28. Deutéronome 11, 26 à 28. Je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Bénédiction, il y en a. Si vous obéissez, c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël, il dit, devant vous, il y a deux possibilités. Il y a bénédiction si vous obéissez à la parole de Dieu et malédiction si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Malheureusement, il apparaît de nos jours, surtout dans l'Église, ça donne l'impression qu'il y a bénédiction devant nous quand nous donnons et malédiction devant nous venant des liens de nos ancêtres et de combats spirituels. Pourtant, bénédiction et malédiction, ce n'est pas vraiment le but pour moi aujourd'hui, mais j'aimerais quand même souligner cela. Pourtant, ici dans ce texte, on voit bénédiction et malédiction venant de la même source. Mais Dieu ne l'accordant pas aux hommes comme cela, il les met dans un choix. Et lorsque ce choix est fait, lorsqu'un bon choix est fait, chaque choix est en même temps une illumination. Chaque fois que tu as deux choses comme ça, si je me mets à choisir ça, c'est-à-dire je ne choisis pas le reste. Je me mets à choisir ce iPad sur moi et je ne choisis plus la Bible ni la tasse que j'ai avec moi. Et donc, Dieu montre que, voilà, j'en ai mis là deux. Si tu choisis le iPad comme maintenant là, ça signifie qu'automatiquement, tu suivras ce qu'il y a dans cette conséquence-ci. Ça voudra dire que tu te détournes de l'autre, vice-versa. Alors, Moïse dit ça au peuple d'Israël. Il dit, j'ai mis devant vous la finalité de ce choix. Il y aura deux options. Si vous choisissez d'obéir à l'Éternel, eh bien, vous vivrez la bénédiction. Mais si vous choisissez de désobéir à l'Éternel, vous aurez la malédiction. Ça veut dire, si vous choisissez, au lieu d'obéir à Dieu, vous choisissez plutôt d'obéir à d'autres dieux, eh bien, pour l'Éternel, ça sera la malédiction que vous allez vivre dans vos vies. Obéir à la parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on est béni. À la question, comment faire pour être béni? Obéissez. J'aime comment les apôtres le disent, après avoir été fouettés en sortant du... Ils étaient encore au Sanhédrin. On leur parlait, on leur dit, écoutez, vous ne devez plus prêcher cette affaire de Jésus. Ils se sont levés, ils ont dit, ben, voyez-vous-même, devons-nous obéir à un homme ou obéir à Dieu? Mes frères et sœurs, quel que soit le prix à payer pour obéir à Dieu, j'aimerais vous le dire en toute sincérité, que ça paye toujours d'obéir à Dieu. Aujourd'hui, ça peut ne pas donner l'impression de l'être. Toute obéissance à Dieu ne va pas toujours tout de suite vers des verdures et des bons pâturages. Ça peut commencer par un désert chaud, difficile. Mais l'obéissance à Dieu paye toujours. L'obéissance à Dieu est toujours source de bénédiction. Obéir à Dieu, c'est être béni. Jésus-Christ, renforçant l'idée de l'obéissance à Dieu, le dit dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Matthieu 7, 24 à 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez, il dit, regarde, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. Regarde comment il est. Il compare. Il dit, c'est comme une maison. Généralement, le langage de la maison, de la vie, ça veut parler de la famille, de la vie de cette maison. Je bâtirai une maison à David, je bâtirai une maison à Israël. Ça veut dire ta descendance, ta vie, tout ce qui concerne tous les aspects de ton être. Alors Jésus dit, celui qui obéit à ma parole, regarde à quoi ça ressemble. Tous les aspects de son être ont un fondement solide, de sorte que tout ce qu'il bâtit est bien stable. Il est béni, il prospère parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Frères, obéissons à la parole. N'obéissons pas seulement à la parole qui dit « prions », obéissons aussi à celle qui dit « gagnons les âmes ». N'obéissons pas seulement à la parole qui dit « jeûnons », obéissons aussi à celle qui dit « exprimons la générosité, mais obéissons à la parole de Dieu. La deuxième des choses, à la question comment faire pour vivre la bénédiction, c'est celle-là, exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité est une chose que la Bible recommande beaucoup. J'ai appris une chose dans ma vie, j'ai découvert, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, peut-être, probablement, qui sait. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent les bénédictions divines. Et je vous ai expliqué lors de la semaine passée que les bénédictions ne commencent pas d'abord par la chrétienté. Il ne faut pas d'abord être né de nouveau pour vivre la bénédiction. Israël, jusqu'à aujourd'hui, sans que certains d'entre eux ne connaissent Jésus, vivant toujours leur foi dans l'ancienne alliance, sont toujours bénis depuis la première bénédiction. Et le mot bénédiction, barak, apparaît dans la Bible bien avant toute alliance avec Dieu, des peuples ou quoi que ce soit. Dieu a béni l'être humain. La création, chrétienne ou non chrétienne, Dieu a béni l'être humain. Je veux revenir sur le fait que dans ces principes de l'hospitalité, n'est pas qu'un principe chrétien, mes frères. Quand tu es hospitalier, tu vis la bénédiction. C'est pour ça, vous voyez, même des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, mais vous regardez leur vie, vous dites, wow, cette personne vit la faveur divine. C'est pourquoi ne confondez pas la bénédiction et le salut éternel. Donc, quelqu'un peut vraiment vivre toutes ces faveurs de Dieu au quotidien, mais avoir pas assuré l'éternité de son âme. Mais il vit la bénédiction en appliquant ses principes. J'ai vu beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens, et même des fois, pas non plus païens, mais convertis à une autre forme de croyance, une autre forme de religion. Mais d'une telle hospitalité que vous vous rendez compte que Dieu bénit cette maison parce qu'elle est hospitalière. Lisons Romains, chapitre 12, versets 13 à 15. Romains, chapitre 12, versets 13 à 15. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Paul est en train de parler aux Romains, il leur donne quelques instructions de vie en tant que chrétien, en tant qu'Église. Il mélange le concept de bénir avec le concept de être hospitalier. Il insiste, il leur dit que c'est une bonne chose. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. C'est un ordre. Si le premier point, c'est obéir à la parole de Dieu, exercer l'hospitalité, c'est aussi d'une certaine manière obéir à la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois dans votre vie où vous avez pris et mis de côté votre argent, vos moyens, ce que vous avez, pour le donner à quelqu'un d'autre qui en a moins que vous ou qui n'en a carrément pas. Des fois, nous, chrétiens, nous passons des heures, on fait autant de jours à prier, 21 jours, matin, midi, soir, on entre, on sort. Je me souviens qu'à l'église, à l'église où j'ai prié à Kinshasa, on avait commencé des temps de jeûne et de prière. La première année, la deuxième année, le Seigneur a commencé à parler à mon cœur, il a dit, vous gênez, mais qu'est-ce que vous faites pour les autres? J'ai dit, Seigneur, on est en prière, là, il dit, justement. Je me suis mis à lire la Bible et je me suis rendu compte que lorsque l'Éternel ordonnait des jeûnes à Israël, c'était aussi un moment où il a insisté qu'il devait être en paix avec les gens, il devait être gentil, il devait libérer les esclaves. Ça devait être le moment où eux, ils jeûnent, ça devait profiter, les autres devaient être dans le bonheur. J'en ai parlé aux frères et sœurs avec qui nous servons le Seigneur, a dit, c'est-à-dire que désormais, lorsqu'on a ce temps de jeûne et qu'on doit, nous, manger que des fruits et des légumes, à chaque endroit où se trouvent nos antennes de prière, les fruits et les légumes deviennent gratuits à offrir à qui qu'on veut venir en recevoir. J'aimerais vous challenger en tant que chrétien. À quel moment dans votre vie vous donnez? Bénédiction à l'Église est devenue la mentalité de recevoir. Or, en réalité, bénédiction est d'abord dans l'esprit de donner. Quand est-ce que vous donnez? J'ai pas d'argent. On donne pas toujours l'argent. On donne un acte de service. On peut donner des efforts. On peut donner des biens. On peut juste ouvrir ses portes à quelqu'un, recevoir quelqu'un, donner de l'eau à quelqu'un. Mais quand est-ce que vous êtes source? Quand est-ce que les gens profitent à travers votre générosité? Quand est-ce que vous êtes hospitalier? Ah, mais non, mais chacun vit chez lui, hein, chacun a ses problèmes. C'est justement ça la foi chrétienne. La foi chrétienne consiste à réfléchir comme Jésus, à considérer que le bonheur des autres passe d'une certaine manière par un sacrifice qui vient de moi. Je suis l'instrument qui va sacrifier et l'Éternel renouvellera parce qu'il veut faire de moi l'instrument par lequel les autres sont bénis. Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous le dit si bien. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'homme d'Hébreux parle aux frères et sœurs, il leur dit, je vous ai dit beaucoup de choses, il y a ce détail-là, vous ne devez pas l'oublier, c'est important. N'oubliez pas l'hospitalité, parce que en exerçant l'hospitalité, il dit, quelques-uns ont dû loger des anges. Il fait référence certainement à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, Abraham, ainsi de suite. Mais il dit, certains ont dû loger des anges. Vous imaginez, quelqu'un est venu chez vous, il dort chez vous, et cette nuit-là, c'est un ange qui habitait chez vous. L'hospitalité. Pas la prière. Hein. N'a pas dit, pendant tant de prières, il a eu la visitation d'un ange. Un ange peut vous visiter et vous l'accueillez par hospitalité. Dans Luc, chapitre 14, versets 12 à 14, il est dit. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas des amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection de juste. Si vous avez commencé cette étude depuis longtemps avec moi, vous saurez que quand il dit « tu seras heureux », il y a un de mots pour « béni » qui signifie « heureux ». Jésus dit ceci, « tu donnes un festin, tu veux rendre disponible tes biens pour que les gens en jouissent. Ne va pas chercher des gens qui ont les moyens de faire de même pour toi. Cherche ceux qui ne pourront jamais te le rendre dans leur vie. C'est à eux que tu dois faire un geste comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu seras heureux. Le bonheur revient chez toi. N'est-ce pas? La Bible résume en disant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes en train d'étudier, si vous le savez, comment faire pour être béni. Si vous réveillez un matin, vous dites, OK, je vais être béni. Qu'est-ce que je dois faire? Notre réflexe naturel, c'est « je dois prier Dieu, bénis-moi ». Absolument d'accord, la Bible le dit, que nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Après avoir prié, vous ferez quoi? Jeûner peut-être? Pourquoi pas, si c'est un exercice spirituel dont vous avez besoin. Mais alors, on ferait quoi d'autre? Depuis qu'on a commencé, je suis en train d'implémenter encore cette idée de comment faire pour être béni. En vous réveillant le matin, quelles sont les actions? Quelle direction vous devez aller dans votre vie pour pouvoir voir la manifestation de la bénédiction dans votre vie? Alors, j'ai parlé, premièrement, quand on veut être béni, il faut obéir à la parole de Dieu. Et puis, j'ai dit, il faut exercer l'hospitalité. Et maintenant, troisièmement, il faut honorer les parents. Ces êtres qu'on appelle parents, qui nous ont mis au monde, Dieu a fait les choses telles qu'une grande partie de notre bénédiction les réattachée. Quel que soit leur visage, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur vie, quel que soit leur degré de détachement avec Dieu, qu'ils connaissent Dieu ou pas, ces personnes-là par qui Dieu t'a fait exister, l'honneur que tu leur rends est une grande source de bénédiction. Mais tu dis ça, Farah Tom, je n'ai pas d'argent à leur donner. Je ne parle pas d'argent. La Bible parle d'honorer d'abord, c'est-à-dire de les mettre dans des conditions où ils le sentent qu'ils sont heureux d'avoir un enfant. Quelquefois, l'honneur ne passe même pas par ce que tu leur donnes. Ça passe simplement par ta propre réussite dans la vie. Ils regardent, ils se disent, oh, on a un enfant qui a fait ses études, un enfant qui a une direction dans la vie, un enfant qui vaut quelque chose. Il n'est pas casse-tête, on n'est pas là en train de se dire « dans quelle boîte de nuit on va le chercher aujourd'hui ?» On ne se dit pas « où est-ce qu'on va aller le ramasser ?» Il s'est déjà shooté, il est quelque part par terre. Non, on voit que tu vis. Quand ils te voient, ça fait de la fierté dans leur cœur. Cette sensation de fierté que les parents ont, c'est la même sensation de fierté que Dieu a lorsque nous exerçons la crainte de son nom et nous l'adorons. Et Dieu a fait en sorte que lorsque les parents ressentent ça, ça donne la bénédiction dans la vie, autant que ça donne lorsque lui, Dieu, le ressent. Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Je vais lire dans la version parole vivante. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse doit rattacher. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédictions. Ah, je suis très étonné de voir que les gens font beaucoup d'autres choses en quête de bénédiction, pendant que les choses les plus simples, ils ne veulent pas le faire. Pendant que les choses les plus recommandées, ils ne veulent pas s'y mettre. Honore ton père et ta mère. Je ne sais pas où est-ce qu'il habite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Aussi longtemps que cela est possible entre tes mains, honore. Honorer, comme je dis, ce n'est pas nécessairement donner beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Des fois, c'est appeler. Des fois, c'est s'inquiéter. Des fois, c'est passer derrière en leur faveur, s'occuper d'eux. Même pas que vous avez même pas parlé, mais tu as eu le temps de te rassurer que ce dont ils avaient besoin, ils l'ont eu. Ah, mais tu dis ça très bien, tu sais, mon frère. Les gens, les êtres humains, se rassasient jamais. Aujourd'hui, tu fais ça, ils vont en demander encore plus. Hey, quoi faire? On est des êtres humains. La Bible sait que tes demandes à toi, c'est de les honorer. quand ils sont devant toi, quand ils sont loin de toi, ton langage, ta façon de parler, ta façon de les respecter, ils se sentent honorés. Quand ils viennent chez toi, ils se sentent honorés. Quand vous parlez, quand tu leur écris, quand vous parlez au téléphone, ils se sentent honorés. Même s'ils n'ont pas le plus bel habit, mais ils continuent à être ton père, ta mère. Et quand ils sont devant toi, ils savent qu'ils sont devant leur fils. Ils ressentent cette aisance, ce plaisir, ce bonheur d'être honoré. Quand ils ressentent ça, bénédiction directe. Alors, je vais vous encourager. En couple, parlez-en. Dites à votre femme, comment pouvons-nous honorer nos parents? Dites-le à votre mari, je pense qu'on devrait honorer nos parents. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut qu'on leur paye un voyage quelque part, qu'ils aillent se reposer? Est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un cadeau, quelque chose qui restera là? Est-ce qu'il faut qu'on prenne quelque chose en charge en leur faveur? On prenne quelqu'un pour commencer à les aider à la maison? Est-ce qu'il faut qu'on leur amène nos petits-enfants chaque semaine, rien que pour qu'ils puissent le voir et qu'ils jouent là avec papy et mamie? Faites quelque chose qui honore vos parents. Et vous serez très étonné. Sans prière, sans jeûne, comment vous allez être béni? Enfin, la quatrième des choses, c'est faire l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, c'est mettre au service du Seigneur et source de bénédiction. Et la parole de Dieu est remplie des exemples, des orientations qui montrent que le fait de servir Dieu est source de grandes et alors de grandes bénédictions. Paul le dit si bien qu'en effet, la piété est source de grandes richesses si cela se suit de contentement. Nous sommes riches en nous contentant de ce que nous avons. Servir Dieu est source de bénédictions. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de bénédictions dans le service de Dieu, il n'y aurait pas eu d'escrocs. Vous ne trouvez d'escrocs que dans un domaine florissant. Vous ne trouvez d'escrocs que dans un domaine où il y a des possibilités. Depuis la Bible, depuis l'époque de Paul, Paul dit, attention, il y en a d'autres au milieu de vous qui ne prêchent pas la parole de Dieu pour la vérité. Et j'aime comment il dit. Il dit, ils ont des paroles mensongères et ils ont pour Dieu leur propre ventre. C'est-à-dire, ils sont en train de prêcher parce qu'ils savent que derrière la prédication, ils peuvent se retrouver avec quelque chose. Dans l'œuvre que nous sommes en train de faire, dans ces milieux de servir le Seigneur, il y a une grande bénédiction. Et ce n'est pas d'abord la prospérité matérielle. Souvenez-vous, je vous ai appris tous certains termes au sujet de la bénédiction. Il y a le shalom, la char, le baraque. Vous vivez, le fait de servir Dieu procure dans votre propre cœur un sentiment d'aisance, de plaisir, de plénitude, de complétude, de paix, de shalom. Vous savez, ce qui a toujours été un de mes plus grands défis dans la Bible, je prie et je pense à ça durant toute ma vie. Je m'imagine vieux, je n'arrive pas à imaginer encore à quoi je ressemblerais vraiment, mais j'ai quand même vu que je commence à avoir quelques barbes blanches. Peut-être que je serai tout blanc, j'aurai la barbe blanche partout, les cheveux seraient blancs. Mais il y a une chose qui revient chaque fois dans ma vie, à laquelle je pense chaque fois. Est-ce que je serai capable un jour de dire « Tout est accompli » Est-ce que je serai capable avec fierté et aisance de dire un jour « C'est fait, tout est accompli, c'est fait, ce que je devais faire, je l'ai accompli, là où je devais aller, je suis allé, Dieu m'a fait grâce, m'a relevé, m'a pardonné quand je n'ai pas pu le faire, mais je finis ma course en disant « J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Et voilà, j'ai fini ma course. » Je me pose toujours cette question. Est-ce qu'après que j'ai travaillé, après que j'ai donné mes efforts, après que j'ai pris des risques, j'ai fourni autant d'efforts, je serais capable de dire, c'est fait. Je l'ai fait. C'est comme ça que j'aimerais finir ma vie. Je ne veux pas finir ma vie entouré de tous les moyens du monde et perdant le sens de mon existence et incapable de rendre un rapport digne. J'aimerais finir ma vie en disant, là où il fallait aller, je suis allé. Là où il fallait donner, je donnais. Là où il fallait perdre, j'ai perdu. Là où il fallait laisser partir, j'ai laissé partir. J'ai dit, tout le temps, je me dis, aujourd'hui, je suis vu à la télé, comme vous le voyez, vu là, par-ci, par-là, connu à gauche, à droite. Je prie tout le jour, Dieu, que mon cœur ne s'attache à aucune de ces choses. Et que le matin, il me dit, écoute, attends, je te vais à la forêt, des gens meurent. Et que je prenne tout ce qui est autour de moi, tout ce qu'il m'a demandé d'avoir, et que j'aille dans la forêt. Sans me soucier de carrière, sans me soucier de l'image, sans me soucier de toutes ces choses-là. Je ne voudrais jamais avoir à me soucier plus de ce que Dieu fait à travers moi que de Dieu, le Seigneur qui est en train de conduire ma vie. Parce que je sais que tout ce que je le suis par sa grâce. Frère, je vais vous poser une question. Est-ce que vous servez le Seigneur? Servir le Seigneur dans sa maison est une si grande bénédiction. Jésus-Christ appelait ça sa nourriture. Lisons ça justement. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Il est dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les disciples sont venus et ils étaient allés chercher à manger. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Maître, on a amené à manger. Il dit, oh, moi j'ai eu à manger d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus, quand il accomplissait la volonté du Père, il dit, c'est moi qui suis rassasié. Moi, j'ai fait, mais c'est moi qui suis rassasié. Je consomme. En faisant l'œuvre de Dieu, vous consommez une nourriture qui remplit vos cœurs. Alors, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Qu'est-ce que vous faites comme œuvre de Dieu? Dans quoi vous êtes? Oh, je ne suis pas en train de dire que vous devez aller prêcher, vous devez aller... Non, mais quelle est la chose qui, lorsque vous allez vous asseoir, vous allez dormir le soir, vous dites, Dieu, tu voulais que je le fasse. C'est pour ça que tu m'avais créé. C'était ça ma mission. Voici mon rapport et que la gloire te revienne. Si vous n'en avez pas, priez. Je sais que les églises sont décevantes. Je sais que les ministères ont des problèmes. Je sais que vous trouverez toujours... On n'est pas parfait. Mais Jésus maintient son église. Les humains ne sont pas parfaits. Mais les corps du Christ, le Seigneur ne fait que travailler dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des dons pour perfectionner les saints. Alors, vous n'avez pas besoin de chercher un endroit où tout le monde est parfait. Parce que vous ne le serez pas. Un homme a dit, si vous trouvez un endroit où tout le monde est parfait, vous allez les gâter. Vous allez les rendre imparfaits. Simplement, j'aimerais insister. Servons le Seigneur. Mettons-nous à servir Dieu. Certains le servent par leur bien, d'autres par leur disponibilité, d'autres par les différents talents qu'il a mis entre leurs mains. Mais ne vivez pas votre jour comme ça, semaine après semaine, sans être capable de dire à Dieu, tout est accompli. Ce que tu attendais de moi, je le fais. Ce que tu veux que je fasse, je le fais. Au quotidien, je grandis, j'accomplis ma tâche. Je fais ce qui fait avancer le royaume. À quel moment vous devenez, vous, un agent du royaume? C'est ça le secret de la bénédiction. Alors, je crois que vous m'avez bien compris. J'en ai donné que quatre. On peut en avoir plus. Mais mon plus grand souhait, c'est que vous soyez réellement, viviez réellement la bénédiction de l'Éternel. Et vous avez vu, ça passe par ces quatre choses aussi. Les parents, qui aurait pu l'imaginer? Rapprochez-vous de vos parents, honorez-les, et vous vivrez la bénédiction de l'Éternel. Ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Mais c'est aussi, je viens de vous le dire, faire l'œuvre du Seigneur, source de bénédiction, exercer l'hospitalité. Parce que ça commence d'abord par donner avant de recevoir. Si cela a été clair, je l'espère, je prie Dieu qu'on reste attaché et que demain, nous puissions continuer la suite de ce même sujet de bénédiction. Allez! Que Dieu vous bénisse. À demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.